Midi 17 minutes, ici François Delisle au micro. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Pour ce premier segment, je suis rejoint par Philippe Pesant-Bellemare. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Alors Philippe, le comité ZIP a dévoilé la semaine dernière sa cartographie des milieux humides et hydriques de l'archipel.
Oui, et puis à titre de rappel, quand on parle de milieux humides, on parle d'écosystèmes qui sont définis par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, comme étant l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. On parle donc d'étangs, de marais, de marécages et de tourbières, tandis que les milieux hydriques, c'est les secteurs où est-ce que l'eau de surface est présente. On parle donc de ruisseaux, de lacs et de lagunes. Donc le comité ZIP des îles, c'est l'organisme, de concertation qui veille à protéger, restaurer et conserver et valoriser donc ce type de milieu-là. Et la cartographie, c'est un projet de longue haleine pour l'organisme environnemental qui a finalement été mis en ligne sur un site hébergé par l'organisation. Je me suis entretenu avec Raphaël Gervais-Galipeau la semaine dernière, là, qui est chargé de projet pour cette cartographie, qui nous rappelle d'abord comment la démarche a vu le jour.
Mais en fait, ça découle du plan régional des milieux humides hydriques, qui était dans le fond un outil pour la gestion de ces milieux naturels-là. Puis là-dedans, dans le constat qui a été fait, on a réalisé qu'il manquait une cartographie complète, disponible, à jour, des milieux humides hydriques. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est d'avoir une plateforme où est-ce que les connaissances les plus à jour, justement, sont disponibles au grand public. Puis ça inclut vraiment tout ce qui est marais, marécages, tourbières, tout ce qu'on connaît à date des milieux humides hydriques des îles de Madame.
Donc évidemment, je suis allé voir à quoi ça ressemblait ce site-là, puis je peux vous confirmer que c'est vraiment bien fait comme outil. Donc il y a une carte satellite, entre autres, là, à laquelle on a accès, où est-ce qu'on voit l'archipel, puis on peut y voir justement des sections colorées qui correspondent aux différents milieux humides et hydriques qui ont été répertoriés. Je vous laisse à nouveau écouter Mme Gervais-Galipeau là, qui explique ce qu'on peut retrouver aussi en ligne.
Ben en fait, l'outil est assez complet dans le sens où il y a quand même une portion sur des informations générales sur les milieux hydriques et humides, qu'est-ce que c'est, comment ils se forment un peu, puis un peu toute notre démarche aussi qui ont mené à la cartographie. Puis ensuite, la cartographie en soi, ben on parle de trois cartes. La première, c'est vraiment tous les milieux humides, tant en terre publique que privée, avec leur type. Donc, comme je disais, les marais, les marécages. Est-ce qu'on parle d'un ruisseau intermittent, un ruisseau permanent? Donc, il y a une cartographie vraiment là-dessus. Puis, vu qu'on a répertorié sur les terres privées, c'est certain que les gens peuvent aller voir sur leur terrain ou des endroits spécifiques pour voir s'il y a des milieux humides qui sont cartographiés dans ce coin-là. Il y a aussi une cartographie sur les milieux humides selon leur indice de qualité. Donc ça, c'est vraiment en lien avec le PRMHH, le Plan régional des milieux humides et hydriques, où il y a un indice de qualité qui est associé à un milieu humide. Puis ça, c'est seulement en terre privée. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller regarder ça. Puis ensuite, il y a la cartographie des milieux hydriques aux Îles-de-la-Madeleine, mais ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est vraiment le ministère de l'Environnement qui nous fournit ces données-là. On prétend pas qu'on a encore tous les milieux humides de cartographier, puis c'est sûr que déjà cette cartographie-là est issue de plusieurs étapes de cartographie qui a été faite par le passé. Là, on parle de... À partir de 2005, il y aurait eu environ 5 moments où est-ce qu'il y a eu de la photo-interprétation, donc vraiment à l'ordinateur, regarder des cartes où est-ce qu'il pourrait avoir des milieux humides, mais aussi de la validation terrain. Puis c'est certain qu'on doit continuer à aller sur le terrain parce qu'il y a des milieux humides qui sont plus difficiles à observer que d'autres. On parle juste de les milieux humides en zone forestière, juste l'accès, ça peut être difficile. Mais c'est ça. Donc on va continuer à aller bonifier, surtout dans les endroits où est-ce que des milieux humides plus petits ou moins faciles d'accès qui n'auraient pas été encore observés.
Et évidemment, Philippe, tout cet exercice qui vise à répertorier, cartographier les différents milieux humides et hydriques des îles, c'est dans le but de les mettre en valeur.
Oui, en effet, puis ça permet de mettre en lumière justement certains des services écologiques qui sont rendus par ce type de site, mais aussi le type de diversité, de biodiversité, dis-je, qu'on y retrouve, comme l'explique Mme Gervais-Galipeau.
Bien, les milieux humides, en fait, ils ont plusieurs fonctions écologiques, qu'on dit. Donc, on peut penser d'abord à la filtration de l'eau. Quand il y a un écoulement qui passe à travers le sol des milieux humides ou les plantes, bien, il y a une certaine filtration qui se fait. Ensuite, clairement, bien, c'est des endroits où est-ce qu'il y a de l'accumulation. Donc, ça fait des zones super intéressantes pour la biodiversité, d'avoir des milieux où est-ce qu'il y a de l'eau parfois, puis ensuite, ça s'assèche parfois. Donc, il y a vraiment des caractéristiques vraiment particulières à ces milieux-là. Aussi, ça vient, c'est des endroits où est-ce qu'il va y avoir de l'absorption par le sol qui va venir alimenter les nappes phréatiques. Donc, on peut penser à ça. Puis, il y a aussi des milieux humides vraiment particuliers comme les tourbières qu'on connaît, qui sont vraiment des puits de carbone. Donc, vraiment au point de vue des changements climatiques, ben, des milieux comme ça, ça peut être vraiment intéressant pour capter le CO2. Puis ensuite, ben, il y a certainement toutes les activités, les loisirs qui sont associés au milieu humide. On a juste à penser à la chasse ou à l'observation d'oiseaux qui se fait en bordure des milieux humides. Donc, c'est vraiment des milieux super intéressants pour ces activités-là.
Et dis-moi, Philippe, comment est-ce que les îles se comparent aux autres régions en ce qui a trait justement à la protection, la mise en valeur de ces milieux humides et hydriques?
Bien, selon Mme Gervais-Galipeau, les insulaires ont su être à l'avant-garde dans ce dossier. On peut l'écouter à nouveau.
Je dirais qu'aux îles de la Madeleine, on a été avant-gardiste par le passé, dans le sens où ça fait quand même plusieurs années qu'on a un indice de qualité des milieux humides directement dans les règlements municipaux, donc un indice qui va de 1 à 4 et qui donne une certaine protection supplémentaire aux milieux humides qui sont vraiment de bonne qualité. Puis ça, c'était assez avant-gardiste pour les autres municipalités ou les MRC ailleurs au Québec. Donc, c'est super parce qu'on a un avantage du fait qu'aux îles, on est déjà habitué, si on veut, à travailler avec ce genre d'outils-là. Puis un autre élément qui nous distingue, c'est qu'on a un territoire qui est assez petit. Si on pense à d'autres MRC ailleurs au Québec qui ont des territoires immenses, bien, eux, la finesse de la connaissance du territoire est vraiment pas la même que nous. T'sais, nous, on parle de milieux humides qu'on connaît de quelques dizaines de mètres carrés, tandis que eux, c'est des superficies vraiment énormes avec des milieux humides qui sont peu connus. Donc, ils n'ont pas cette finesse de connaissance-là, cette précision de connaissance du territoire qui, nous, de notre côté, nous avantage vraiment, mais qui rend, après ça, la tâche difficile parce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, les couches ministérielles qui sont faites vraiment avec des algorithmes, par exemple, vraiment plus généraux. Puis c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment un travail constant qui est fait pour améliorer la cartographie parce qu'on a le territoire qui nous permet de le faire.
Donc, un projet justement qui nous permet de mieux connaître notre territoire pour mieux le protéger. Merci Philippe pour toutes ces précisions.
Merci François.